Bonsoir à tous. Le Secours catholique a dévoilé son rapport annuel sur la pauvreté en 2025. Les chiffres prouvent que la précarité augmente et notre département n'est pas épargné. Il fera de nouveau appel à votre générosité cette fin de semaine et week-end à l'occasion de la traditionnelle collecte de la Banque alimentaire. Après plusieurs mandats, dont deux en tant que maire de la Petite Boissière, Joël Barreau passe la main. Christophe Godet, petit-fils de Pierre, qui fut maire de la commune de 1946 à 1979, se porte candidat. Le traditionnel salon du livre au Pin ce samedi. Une fois de plus, il va rassembler uniquement des auteurs originaires ou domiciliés dans cette commune du Bocage. La refondation de la République, thème de la prochaine conférence ce jeudi proposée par le Centre Résistance et Liberté de Thouars. Elle sera animée par l'historien Fabrice Grenard, directeur de la Fondation de la Résistance.
La météo à l'issue du journal, le temps qui reste plutôt agréable demain. Le Secours catholique vient de dévoiler les chiffres de la pauvreté en 2025.
Dans son rapport annuel, les indications montrent que la précarité et les inégalités malheureusement augmentent. C'est particulièrement vrai dans le Poitou, c'est-à-dire Deux-Sèvres et Vienne. On note que l'an passé en France, plus d'un million de personnes ont été accompagnées par les 58 000 bénévoles du Secours catholique Caritas France. Jérôme Leclerc, animateur du réseau de solidarité, détaille les chiffres pour ce 30e rapport.
Parmi les personnes accueillies à l'échelle nationale, on relève que 94% vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et à l'échelle du Poitou, donc notre délégation comprend les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres, ce taux monte jusqu'à 96%. Les personnes même qui vivent dans l'extrême pauvreté représentent, elles, 80%, avec un niveau de vie médian qui descend à 200 euros. Donc on est vraiment avec des personnes qui se retrouvent à la fin du mois pour se nourrir, pour se loger, pour se chauffer, pour élever leurs enfants avec à peine quelques dizaines d'euros. On observe que la pauvreté en milieu rural augmente. On peut faire aujourd'hui un constat sur 30 ans, puisque ce rapport de l'état de la pauvreté a commencé en 1994. En 1994, les personnes pauvres en milieu rural représentaient 16% de la population. Aujourd'hui, il a doublé. Il est monté jusqu'à 32%. Donc le Poitou est parfaitement représentatif de cette situation.
Dans ce rapport 2025 sur la pauvreté, on note également que les femmes et les enfants sont en première ligne.
Les trois constats principaux, ce sont, sur ces 30 ans, une féminisation vraiment de la pauvreté. Au niveau du Poitou, ce sont 65% des personnes accueillies qui sont des femmes. Parmi elles, on a une très forte représentation des mères isolées, des femmes seules aussi, et puis des couples avec enfants. Donc, in fine, derrière ce chiffre des femmes, ce sont aussi les enfants qui apparaissent extrêmement touchés par les cas de pauvreté. Le deuxième point qu'on peut retenir, ce sont les difficultés liées à la santé ou au handicap. Autant en 1994, on avait une pauvreté qui était conjoncturelle, qui était liée au niveau de revenus des personnes. Aujourd'hui, c'est devenu plus structurel, multifactoriel, et les problèmes liés à la santé, et a fortiori dans nos territoires ruraux, avec l'éloignement des parcours de soins, on a des situations de pauvreté liées à la dégradation de la santé, au fait de ne pas avoir accès aux soins et d'avoir vécu de métiers qui ont pu casser les corps, d'être durablement éloigné de l'emploi par ce fait. Le troisième constat, c'est également une intensification de la pauvreté. Depuis 2014, plus particulièrement, ce sont vraiment les pauvres qui se sont encore plus appauvris. Pour autant, on sait que s'il y a des politiques volontaristes, ça a été le cas pendant la période Covid, où on a eu le bouclier qui a permis de protéger un petit peu les familles vis-à-vis des dépenses d'énergie. Donc on sait qu'il y a quand même des politiques volontaristes qui peuvent permettre d'être protectrices.
Jérôme Leclerc, animateur du réseau Solidarité au Secours catholique Vienne de Sèvres, au micro de D4B.
La grande collecte de la Banque alimentaire, c'est pour ce week-end.
C'est le moment clé de l'année pour la Banque alimentaire qui mise sur ce temps fort pour couvrir 15% des besoins annuels. Depuis plusieurs années, elle répond à une demande croissante des personnes accompagnées liées à l'inflation et aux difficultés économiques. La Banque collecte ainsi des denrées alimentaires qui sont ensuite redistribuées aux associations partenaires, associations qui mettent d'ailleurs des bénévoles à disposition lors de cette collecte dans quelques 70 magasins de Sévriens, c'est vendredi, samedi et parfois même dimanche matin. Michel Morin, président de la Banque alimentaire en Deux-Sèvres, vise 90 tonnes collectées pour aborder 2026 plus sereinement.
La Banque alimentaire approvisionne une quarantaine d'associations partenaires, hein, comme la Croix-Rouge, le Secours catholique, les épiceries sociales solidaires, l'Anneau de l'Espoir, Saint-Vincent de Paul. Déjà, nous sommes passés de 37 à 44 associations, hein, en 2025. Donc, qui dit plus d'associations dit plus de bénéficiaires. Et on peut considérer en 2026 qu'il y a encore une augmentation d'à peu près de 7 à 10% de bénéficiaires et de demandes. C'est énorme, hein, puisque ça représente, en deux ans, on a augmenté de près de 15 à 17% de bénéficiaires. De nouveaux bénéficiaires d'ailleurs, hein, notamment les jeunes, hein, des personnes qui travaillent également, les petits salaires, hein, qui sont en difficulté en fin de mois.
Le nombre de bénéficiaires augmente donc, mais la générosité, elle ne faiblit pas. Et c'est un peu la lueur dans la nuit.
Même quand les temps sont durs pour tout le monde, eh bien, on voit bien dans les magasins que les personnes restent solidaires, donnent ce qu'elles peuvent, hein, comme on dit, nous, même la simple boîte de conserve, eh bien, c'est un geste solidaire. Et on recense aussi, hein, notamment les bénévoles qui sont déployés dans les magasins, eh bien, on voit que les deux Sévriens restent, je dirais, généreux.
Une générosité à confirmer donc lors de cette collecte de la Banque alimentaire cette fin de semaine dans les 70 magasins de Sévriens, pour certains même le dimanche matin, les 1000 bénévoles. Les vols seront parfaitement reconnaissables avec leur gilet orange aux entrées et sorties des moyennes et grandes surfaces. Le renforcement des mesures de prévention en élevage dans 4 départements suite à la propagation de l'influenza aviaire hautement pathogène. Étant donné l'évolution rapide du nombre de foyers en élevage dans l'ouest de la France, des mesures renforcées de prévention sont mises en place par arrêtés préfectoraux en Vendée et dans 3 départements limitrophes, Loire-Atlantique, Maine-et-Loire et de Sèvres. Ces mesures temporaires s'appuient sur le renforcement de la surveillance, la mise à l'abri des volailles, la réalisation de tests avant mouvement et, pour les canards, la réalisation d'une 3e dose vaccinale. Elles seront levées le 31 décembre si la situation sanitaire le permet, indique la préfecture des Deux-Sèvres.
Les municipales de mars 2026.
Il marche dans les traces de son grand-père, petit-fils de Pierre Godet, qui fut maire de 1946 à 1970. Christophe Godet, 61 ans, annonce sa candidature à la petite Boissière. Cet éleveur de bovins sur la ferme de Pouellière, très investi au sein du groupe Terena et auprès du COPA-COGEPA, le comité des organisations professionnelles agricoles de l'Union Européenne, à Bruxelles notamment, espère succéder à Joël Barreau qui, après plusieurs mandats, dont deux en tant que maire de la petite Boissière, ne souhaitait pas se représenter. Son mandat auprès de Terena s'arrêtant en juin 2026 et à l'approche de la retraite, Christophe Godet, de fait plus disponible, sera donc la tête de liste de 15 personnes, dont 8 femme, il est au micro colline de Jacqueline Pinon.
Je trouve qu'on a une commune qui vit bien, qui a fait des aménagements, donc c'est dans la continuité que je me suis inscrit sur cette liste au départ. Et pour en finir, la motivation des gens autour de moi fait que je vais certainement conduire la liste. C'était pas ce qui était prévu au départ.
Vous avez presque la politique dans la peau. Vous siégez à Bruxelles, vous êtes investi chez Terena, la retraite arrive pour y aller justement.
Oui, c'est ça. J'étais très occupé beaucoup de jours par semaine dans diverses fonctions de la coopérative sur le territoire, dans l'animation coopérative des élus et des salariés, et à Bruxelles aussi, pour représenter les coopératives françaises auprès du COPA-COGECA. Donc l'investissement dans la vie associative, coopérative ou municipale m'intéresse. Et comme mon mandat va bientôt s'arrêter, je trouvais normal de m'investir ailleurs, dans d'autres associations ou là. Et en fait, j'ai été happé par cette envie, donc c'est pour ça que je menais cette liste. Alors j'aurai 15 personnes et j'aurai la parité, c'est sûr. Les femmes m'ont répondu plus vite, donc c'est très bien. On va pas la dévoiler aujourd'hui, mais elle est complète. Il me reste 2 personnes qui m'ont demandé un peu de réflexion, donc on est satisfait de voir cette motivation.
Le maire actuel, Joël Barreau, se consacrera désormais un peu plus à sa famille et part serein, nous a-t-il confié, toujours au micro de Jacqueline Pidon.
Après 18 ans de service, hein, donc un mandat d'adjoint et 2 mandats de maire, ça y est, je ne vais pas revenir en arrière.
Alors pas d'adjoint du conseil actuel pour vous succéder, vous adoubez en fait celui qui va être la tête de liste.
Oui, bien sûr, bah, je suis très content, ça va fonctionner, surtout épaulé avec les personnes de mon conseil municipal, hein, qui continuent, donc oui, j'en suis très confiant.
Qu'est-ce que vous diriez de la commune là, à l'heure où vous la laissez?
C'est une chance que j'étais maire dans la commune de la Petite Boissière. J'ai eu du mal à dire oui il y a 12 ans, mais je n'en regrette pas aujourd'hui. C'est une commune familiale où on a eu des rapports avec les habitants vraiment chaleureux, constructifs, et on n'a eu que des retours de leur part, parce qu'on a du bénévolat qui est venu ensuite, les réunions participatives, et tout le monde a répondu présent, et ça c'est que du bonheur.
Rappelons que les municipales se dérouleront les 15 et 22 mars prochain avec un mode de scrutin identique dans toutes les communes, même celles de moins de 1000 habitants, avec des listes qui doivent être paritaires et respecter une alternance femmes-hommes. Le passage à ce mode de scrutin implique le dépôt de liste complète et la suppression du panachage. Il ne sera donc plus possible d'ajouter ou supprimer des noms. Le député nord-de-sévrien en Égypte a compté de demain et pour 4 jours. Jean-Marie Fievé se rendra en effet au Caire afin de représenter l'Assemblée nationale lors de la session de l'Assemblée parlementaire de l'Union pour la Méditerranée. Elle rassemble des représentants parlementaires des pays des deux rives de la Méditerranée afin de favoriser le dialogue politique et la coopération régionale. Les travaux de cette session aborderont notamment les enjeux de la stabilité, de sécurité, de développement économique ainsi que les défis migratoires et environnementaux auxquels la région est confrontée. Fin de citation.
Au Pin, les auteurs se retrouvent au salon.
La commune du Pin a la particularité de compter 7 auteurs. Après 2021 et 2023, avec l'aide de la commune, ils organisent ce samedi 29 novembre ce salon qui les rassemble tous à la salle des fêtes. Il s'agit de Noël Pouplein, Edith Orango-Picard, Marie Gazot, Patrick G, Pascal Pavy, Monique Guérin-Simoneau et Christian Stock. Ces deux derniers sont passés par nos studios pour nous en parler.
Et il y a 7 auteurs sur la commune, dans des genres différents qui peuvent toucher au patrimoine local, à l'histoire et la généalogie, comme à la culture en général, le côté rural des choses, et puis aussi essentiellement l'imagination qui pousse à l'écriture.
Ça fait plaisir sans doute, Monique Guérin-Simoneau, que d'avoir autant de confrères auteurs sur cette commune.
Ça laisse bien augurer de la culture de proximité et aussi de la culture en général, puisque nous avons beaucoup de personnes en fait qui écrivent et beaucoup de personnes qui lisent également. Donc je pense que ce petit salon, bon, qui avait été lancé de façon un petit peu occasionnelle, devient pérenne et je pense est attendu par la population.
Et deux auteurs seront également invités sur ce salon du livre peinté, Philippe Certain, co-auteur du dernier ouvrage de Monique Guérin-Simoneau, et Gérard Gabory, voisin combrané, qui présentera son ouvrage relatif à la Seconde Guerre mondiale dans le secteur. Rendez-vous ce samedi 29 novembre à la salle des fêtes du Pin de 14 à 18h.
La refondation au cœur du débat au C2RL de Thouars.
Dans la poursuite des conférences concernant la victoire de 1945, le Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars accueille ce jeudi 27 novembre l'historien Fabrice Grenard, directeur de la Fondation de la Résistance. Au cœur de la conférence débat, la refondation de la République, qui remonte à l'époque des années 45 et suivantes, ont œuvré pour bâtir une société nouvelle avec notamment la sécurité sociale. On y trouve une résonance avec le débat d'aujourd'hui. Fabrice Grenard, au micro colline de notre correspondant Thouars, c'est Dominique Hérault.
La période 1944-1945 fait partie de ces grands moments à la fois de bascule et de refondation qui ont existé dans notre histoire.
On a l'impression que ce modèle-là est arrivé à bout de souffle aujourd'hui avec les atermoiements parlementaires notamment.
Le contexte a changé. Ce modèle a été adopté dans une période très compliquée. Ça n'a pas empêché les résistants d'être ambitieux sur l'avenir. Ce modèle a profité ensuite d'un contexte très favorable du fait d'une croissance démographique extraordinaire. Là où nous connaissons aujourd'hui une situation de vieillissement qui explique aussi pourquoi certaines choses qui ont pu bien fonctionner par le passé, comme le financement de la sécurité sociale, sont aujourd'hui plus compliquées.
Est-ce qu'on peut trouver dans ce passé des recettes pour envisager l'avenir ?
Oui, il y a une grande leçon qu'il faut tirer, à mon avis, de ce moment 1944-1945, c'est que si vous voulez engager des réformes de structure majeures, il faut le faire non pas de façon clivante, mais il faut le faire dans le consensus. Et c'est ce qui s'est passé en fait en 1944-45. Des réformes comme la sécurité sociale, comme les nationalisations, elles ont été adoptées et elles ont fonctionné à ce moment-là aussi parce que un consensus politique s'est développé autour d'elles, allant de l'extrême gauche communiste jusqu'à la droite libérale et républicaine. Et toute la difficulté, je pense, de nos jours, c'est que il n'y a pas de consensus. On cherche à passer en force.
Sans esprit de compromis que certains confondent avec compromission, sans arrière, non, sans arrière-pensée. Le passé, dit-on, ne vaut que parce qu'il préfigure l'avenir, d'où l'intérêt de la conférence de Fabrice Grenard proposée par le Centre Régional Résistance et Liberté de Thouars ce jeudi 27 novembre. Réservation possible au 05 49 66 42 99 ou sur info@crrl.fr. Un petit mot de tennis pour vous indiquer que dans le cadre du championnat de Pro A, les Bressurés ont la possibilité d'assurer leur maintien demain à Saint-Amand-les-Eaux. Les Nordistes sont actuellement lanterne rouge et en cas de succès, les protégés du capitaine Nicolas de Wilder aurait l'assurance de poursuivre l'aventure dans ce championnat la saison prochaine avant même la réception de Boulogne-sur-Mer samedi prochain.
Quel temps aujourd'hui ? Découvrez la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres.
Nous avons connu, Patrice, une journée de mardi plutôt bien ensoleillée.
La matinée de demain le sera tout autant, mais dans une atmosphère plus fraîche, puisque les températures se situeront autour de 0, voire 1 degré levé du jour. Par la suite, les nuages gagneront du terrain, mais ça devrait rester plutôt lumineux. Il faudra compter sur un léger vent de secteur nord-ouest demain. Prévoyez 8 à 10 degrés au meilleur de la journée de mercredi.
Et voilà pour toute l'info près de chez vous, édition du soir et l'info près de chez vous en ce mardi. Merci Patrice, le retour demain.
Le retour à FM Gazo à 7h02. Bon début de soirée avec Colline. Je vous retrouve demain à 18h pour le Colline Info Soir.
C'était la météo avec Céolis, votre fournisseur d'électricité et de gaz en Deux-Sèvres. L'énergie est notre avenir, économisons-la.